Chaque matin, nous nous regardons dans le miroir. Et ce que nous voyons n'est pas toujours extraordinaire. De bonne heure, le matin, ce qu'on voit dans le miroir n'est pas fantastique en général. Alors, on se dépêche d'aller dans la douche, de laver tout ça et d'améliorer un petit peu ce que le miroir nous dit. Mais même avec une bonne douche, un bon lavage, ce qu'on voit dans le miroir n'est pas toujours ce que nous voudrions voir. Et on est parfois un petit peu inquiet en voyant dans le miroir ce que les autres voient. Et on se dit, misère, il faudrait peut-être arranger un petit peu ça. Le miroir, en fait, ne nous dit rien et ne fait que de refléter la réalité, mais la réalité parfois nous inquiète sérieusement. On est parfois obligé de faire avec ce que nous avons. Les dames, par contre, ont l'avantage d'avoir recours à la peinture pour aider la situation. Maintenant, le résultat n'est pas garanti parce que dans bien des cas, hélas, la situation après n'est pas meilleure qu'avant. Je me souviens d'ailleurs de ce qui m'est arrivé l'année passée. Je voyageais en avion de Edmonton à Montréal. Et le voyage n'était pas très calme. Ça secouait beaucoup, il y avait beaucoup de turbulences. Et le voyage n'était pas très agréable sur cette section-là. J'étais assis près de la fenêtre et il y avait à côté de moi deux sièges libres. Et à un moment donné du vol, quand les employés avaient fini de faire leur service, une hôtesse de l'air est venue s'asseoir sur un des sièges libres qui était là. Et c'était un de ces moments où il y avait pas mal d'agitation, de turbulence. Et cette hôtesse a commencé à sortir son attirail de maquillage. Alors du coin de l'œil, j'ai regardé la situation avec intérêt. Elle avait décidé de faire des retouches à la peinture. Et j'ai pensé que l'œuvre de restauration dans laquelle elle voulait se lancer risquait d'être délicate, parce que ça bougeait énormément. Alors d'un côté, elle tenait son miroir, et de l'autre côté, crayon, pinceau, bâton, etc. Mais j'ai vite regardé par la fenêtre parce que tout d'un coup, j'ai imaginé ce que j'allais voir quelques minutes après. C'est-à-dire des coups de crayon dans le front, du rouge à lèvres sur le nez. C'était extrêmement délicat. Vous savez, quand on essaye d'améliorer l'extérieur, on n'améliore en réalité qu'une seule partie de ce que le miroir est en train de nous dire. Et encore, nous n'y arrivons pas toujours. Le miroir nous parle beaucoup. Il ne fait que dire la réalité, et c'est peut-être là justement le problème que nous lui reprochons. La parole de Dieu est présentée comme un miroir. Et dans l'épître de Jacques se trouve la description de sept personnages. Sept personnages différents qui se reflètent dans le miroir de la parole de Dieu. Et j'aimerais aujourd'hui regarder avec vous rapidement ces sept personnages pour savoir auquel de ces sept personnages nous ressemblons le plus. Bien entendu, il y a des bons et des mauvais personnages dans cette liste. La question est de savoir, en regardant dans le miroir, qui est-ce que nous voyons ? Quel personnage voyons-nous ? La parole de Dieu reflète sur nous une image d'une réalité. Quelle réalité nous renvoie-t-elle ? Est-ce que nous sommes capables de voir cette réalité que la parole de Dieu nous renvoie ? Le premier personnage qui est présenté dans l'épître de Jacques, c'est l'homme irrésolu. Il en est question au chapitre 1er, et j'aimerais lire à partir du verset 5 ce qui est écrit. Épître de Jacques, chapitre 1er, au verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Un homme irrésolu, inconstant, instable. Le mot qui est employé ici est intéressant. C'est un mot qui veut dire avoir deux âmes, deux personnes en une. C'est un peu ce que Jésus décrit lorsqu'il présente cette parabole du semeur. Vous vous souvenez, il y a plusieurs terrains. En fait, cet homme irrésolu, c'est le terrain pierreux. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 13, cette parabole est racontée. Et Jésus parle de ce terrain pierreux qui représente ces gens qui reçoivent la parole avec joie, nous dit le texte, mais il n'y a pas de racine. Ils croient pour un temps, mais dès que survient la tribulation, ils trouvent une occasion de chute. Pas de racine. Des hommes irrésolus. Alors ce sont des gens qui croient, mais qui ne croient pas. Qui sont forts un jour et qui sont faibles le lendemain. Qui sont bouillants et le lendemain qui sont déprimés. Qui viennent à l'église avec foi dès le matin et qu'on ne voit plus pendant 6 mois. Qui donnent leur dîme et puis qui arrêtent et qui disent « ça ne marche pas ». Irrésolus. Des gens qui ont 2 âmes, une forte, une faible. Des gens qui vont constamment passer de l'une à l'autre et qui ne savent pas exactement où se trouve la vraie force. Ils vont la chercher peut-être en eux-mêmes et ne la trouvent pas et vont osciller de la force à la faiblesse, du doute au découragement, à l'excitation. Dans ce texte, Jacques précise que ces gens ne s'imaginent pas qu'ils recevront quoi que ce soit de la part du Seigneur. Cet homme irrésolu ne fonctionne pas avec foi, confiance, stabilité. Ils ont du mal à croire que Dieu est lui, stable et fiable. Ils vont construire dans leur esprit une image de Dieu à leur image à eux et se demandent s'ils peuvent compter sur lui, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment compter sur eux. Suis-je ce personnage-là? Est-ce que je ressemble à ce personnage, l'homme irrésolu que Jacques présente ici? Mais il y en a d'autres. Le deuxième personnage se trouve toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. J'aimerais lire avec vous les versets 23 et 24. Jacques, chapitre 1er, versets 23 et 24. Il est écrit ceci. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. » Ce deuxième personnage, c'est l'inconscient, le superficiel ou l'oublieux, si vous voulez. Celui, nous dit le texte, qui prend conscience, qui regarde, qui voit son visage et puis qui n'en tient pas compte, qui s'en va, qui continue, qui oublie tel qu'il est. Il y a encore, je crois, dans la parabole du semeur, un terrain qui ressemble à celui-là. C'est le chemin. Où Jésus dit, voilà, lorsque ces gens écoutent, ils entendent la parole mais ne la comprennent pas. Alors le malin vient et il enlève la semence. Le terrain du chemin où la semence ne pénètre pas, ça reste en surface. Alors il est facile pour l'ennemi de l'enlever, de la balayer. Et on oublie et on ne sait pas. Cet homme inconscient, superficiel, ne sait pas, il ne comprend pas. Il ne se rend pas compte, il ne voit pas, mais il est là. La vie chrétienne, pour lui, c'est une initiation à la foi. Et ça se limite à ça. Il y a un bel enseignement, on aime bien ce qu'on dit, ce sont de bons concepts, c'est très beau. Mais ça ne devient jamais une expérience personnelle. Ça ne devient jamais concret, ça ne devient jamais pratique. Ça reste superficiel, ce qui fait que, une fois que c'est terminé, on n'y pense plus et par conséquent, on ne va rien en faire. C'est celui qui n'est pas conscient de sa situation devant Dieu. Il a regardé dans le miroir, ce qu'il a vu ne lui a peut-être pas plu, mais aussitôt oublié, il continue son chemin inconscient de la réalité auquel il faut faire face et par conséquent, il n'approfondit jamais. Il reste en surface. Il y a un indice qui doit attirer notre attention. Lorsqu'il n'y a pas de lutte, pas de combat contre nous-mêmes dans notre vie chrétienne, quand tout va tellement bien qu'on se croit déjà arrivé au paradis, c'est qu'il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne pas. C'est que l'on correspond en fait à ce personnage-là. Tout va bien, pas de lutte, pas de problème. Et on traverse la vie chrétienne comme une croisière sur une mer d'huile. Tout va bien. Pas de conviction personnelle, pas d'expérience personnelle. Trop superficielle dans sa relation avec les autres, mais aussi et surtout dans sa relation avec Dieu. Il a vu, mais il a oublié comme il est. Est-ce que nous ressemblons à cet inconscient superficiel? Peut-être, parfois. Le troisième personnage se trouve dans le même chapitre, quelques versets plus loin. C'est le bavard. Chapitre 1er de l'épître de Jacques, au verset 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves, dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Dans le chapitre 3 de son épître, Jacques va passer un long moment. En fait, les 12 premiers versets à expliquer la puissance de la langue. Il va la comparer à plusieurs choses. La langue, c'est comme un feu que l'on n'arrive pas à contrôler. C'est comme un cheval que l'on a du mal à contenir. C'est comme le gouvernail d'un navire, un tout petit instrument, mais qui conduit un grand bateau. Cet instrument qui peut faire à la fois du bien et à la fois du mal. Et dans ce chapitre, il va essayer de faire comprendre que, finalement, celui qui arrive à tenir sa langue en bride, c'est qu'il a réussi finalement à tenir tout son être en bride. Comme si l'usage de la langue était le symptôme, le thermomètre de notre capacité de contrôler notre être entier. Celui qui finalement n'arrive pas à contrôler sa langue n'a pas contrôlé grand-chose. Et là, nous nous regardons dans le miroir et peut-être que nous avons tous un problème. Vous vous souvenez de ce que le sage écrit dans le livre des Proverbes? Regardez avec moi dans le livre des Proverbes au chapitre 10. Proverbes chapitre 10, au verset 19, il est écrit ceci. Proverbes chapitre 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. J'ai l'impression que je devrais me taire et aller m'asseoir. Les pasteurs sont connus comme des gens qui parlent beaucoup, qui parlent trop. Voilà un proverbe pour eux. Et vous connaissez dans les proverbes un petit peu plus loin, au chapitre 25, cette parole de sagesse au verset 11. Proverbe chapitre 25, verset 11. Il est dit, « Comme des pommes d'or, sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. » Comme si elles étaient extrêmement rares. Des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Parole rare, parole exceptionnelle. Ainsi, dans son épître, Jacques nous rappelle que celui qui n'a pas réussi à contrôler sa langue a une religion qui est vaine. Il sous-entend par là que, n'ayant pu contrôler sa langue, il ne contrôle rien en fait dans son être et que finalement la religion n'est restée pour lui qu'une théorie. Elle n'est pas passée dans la pratique. Elle n'est pas devenue contrôle de soi. Et je pense à Jésus, le modèle suprême. Jésus est dans son tribunal. On l'accuse de mille et une choses qu'il n'a pas faites évidemment. Et Jésus ne dit pas un mot. On va lui reprocher, on va lui demander, est-ce à moi que tu ne parles pas? Et il ne répond rien. Sur la croix, on lui dit, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Mais il avait en lui le pouvoir de descendre de la croix et d'exterminer tous ces bandits là devant lui. Pas un mot. On l'accuse, il ne bouge pas. La prophétie d'ailleurs l'avait présenté comme tel, comme cet agneau qu'on mène à la boucherie et qui ne dit rien. Le résultat est d'autant plus surprenant que quelques paroles de sa part auraient été suffisantes pour faire taire ce qui était en face de lui, pour de bon. Le résultat est encore plus surprenant parce qu'il avait en lui non seulement la puissance de les faire taire, mais de les exterminer. Pas un mot. Le silence était préférable à la parole. Mais lorsqu'il a été interpellé sur son identité, il l'a dit clairement. Ainsi Jésus, dans sa manière de gérer le moment le plus difficile de sa vie sur terre, a montré une maîtrise de sa langue incroyable, exceptionnelle. D'autant plus qu'il était lui, la parole de Dieu. Un quatrième personnage est présenté dans l'épître de Jacques, au chapitre 2 et au verset 20. Épître de Jacques, chapitre 2, le verset 20. « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ?» Voilà un autre personnage. L'homme vain, nous dit le texte. Et le mot qui est employé ici veut dire vide. Un homme vide. Beaucoup pensent qu'en réalité, ce que nous faisons, ce que nous vivons, n'a rien à voir avec la foi. Tu crois, c'est bon, t'as le ticket pour le paradis. En fonction de ce que je lis dans l'épître de Jacques, je crains que beaucoup de chrétiens aujourd'hui soient des hommes vides. Des gens vidés de leur substance. Parce qu'ils ont pensé que foi et croyance étaient la même chose. En réalité, la foi dont parle notre texte est véritablement cette expérience personnelle de confiance avec Dieu qui permet à la foi de déboucher sur quelque chose de concret. Le verset suivant, d'ailleurs, le dit bien, le verset 22. Après avoir parlé d'Abraham, nous pouvons lire verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Cet homme vain, vide, a une bonne théologie, il a une bonne conception des choses peut-être, mais sa foi n'a débouché sur rien. Je pense à l'exemple que l'Évangile nous donne de cette rencontre de Jésus avec le jeune homme riche, qui avait tout compris. Il lui dit d'ailleurs, depuis mon enfance, je vis là-dedans. Et il lui propose d'obéir aux commandements. Et le jeune homme riche avait obéi à tous les commandements qui étaient prescrits par sa religion. Et tout d'un coup, Jésus lui propose quelque chose qui n'était pas prévu. Et là apparaît le vide de cet homme. Il a une bonne connaissance, il a une bonne pratique des rites et des rituels, mais il est venu voir Jésus parce qu'il y avait en lui un vide. Et Jésus met le doigt sur ce vide-là, en lui faisant comprendre que sa compréhension de la vie religieuse doit déboucher dans une pratique qui dépasse les rituels, qui dépasse l'appartenance à une tradition, qui dépasse l'accomplissement des rites du culte auxquels ils sont asservis. Cette foi que tu as, cette théorie que tu as comprise, mets-la donc en pratique tous les jours de la semaine. Et sans aucun doute, nous pouvons à certains moments ressembler à cet homme vide, à cette femme vide. Il y a dans l'épître de Jacques un cinquième personnage, au chapitre 4. Au chapitre 4 et au verset 4, il est écrit ceci. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ce cinquième personnage, c'est l'ami du monde. C'est une formule plus agréable pour traduire ce que dit le texte adultère. En fait, c'est dans ce sens spirituel que l'adultère est présenté. Ceux qui finalement ont un lien avec le monde, avec lequel ils ne doivent pas avoir de lien, parce qu'en réalité, ils appartiennent à Dieu. Adultère, ami du monde, dit le texte. Ce sont ceux qui finalement ont fait des accommodements raisonnables pour pouvoir être bien dans le monde, mais aussi bien dans l'Église. Ils sont assis entre deux chaises. Ils essayent d'être bien avec tout le monde. Mais le texte nous dit que nous ne pouvons pas être amis de Dieu et amis du monde en même temps. C'est une situation exclusive ici. Et Jésus l'avait dit, vous vous souvenez, dans l'évangile de Matthieu, il dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il va haïr l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est une situation difficile, parce que c'est une notion que le monde d'aujourd'hui n'aime pas. Une situation exclusive. On aime aujourd'hui le mot « inclusif », qui permet à tous de croire, de faire ce qu'ils veulent. La parole de Dieu est exclusive lorsqu'il est question de notre maître. Nous ne pouvons pas être amis du monde et amis de Dieu en même temps. On voudrait aujourd'hui pouvoir jouer sur tous les tableaux et être correct quand même, être amis de Dieu et puis amis du monde. Et puis, pour le justifier, on va souvent dire que l'on va se faire ami du monde pour pouvoir amener Dieu dans le monde. Ce qu'on fait, en fait, c'est amener le monde vers l'Église. L'ami du monde, c'est l'ennemi de Dieu. Deux noms synonymes, mais qui ne font pas le même effet à nos oreilles. Ennemi de Dieu. Est-ce que vous vous sentez ennemi de Dieu? Il n'y a d'ailleurs qu'une seule solution. Jésus avait dit, il n'y a qu'un chemin, et il est ce chemin. Ce n'est pas Jésus ou celui-ci ou celui-là ou un autre, comme tu préfères. Il n'y a qu'un chemin. Dans le livre des Actes, il nous est dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ce qui veut dire que tous les autres sont exclus. Aucun autre ne va apporter le salut. Il n'y a que lui, et c'est avec lui que je veux développer cette amitié-là. Je ne pourrais pas développer l'amitié avec lui au travers de l'amitié avec le monde. Pour reprendre la formule du texte, c'est de l'adultère. Ça sonne encore moins bien à nos oreilles, n'est-ce pas? Je crois que le monde d'aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, réclame de notre part un christianisme aux couleurs claires. Un christianisme grisâtre, un christianisme caméléon, ne convient pas au Christ des Écritures. Il y a un sixième personnage dans l'épître de Jacques qui est présenté au chapitre 4 et au verset 17. Épître de Jacques, chapitre 4, verset 17, dit ceci, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. » Comment l'appeler ? Le paresseux ? Il sait ce qu'il faut faire et il sait le faire, nous dit le texte, mais il ne le fait pas. C'est, nous dit Jacques, un pécheur. Là encore, c'est une formule forte pour nous faire comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Jésus a été confronté à ce raisonnement-là et je vous propose de regarder comment Jésus réagit à ce genre de choses. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, nous lirons à partir du verset 39. Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 39. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que vos péchés subsistent. Ils se prétendent aveugles, en fait ils voient. Ils savent. Et ils savent ce qu'il faut faire. Mais ils ne le font pas. » Jésus ici est en train de dire quelque chose de grave. Il est en train de dire à sa génération, vous savez exactement qui je suis. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Et c'est là le refus le plus grave que cette génération ait pu faire. Ils prétendaient être aveugles sur l'identité de Jésus. En fait, ils voyaient très bien. Mais ils n'en voulaient pas. Parce que ce Jésus-là ne correspondait pas à ce que le marketing de l'époque proposait. Et Jésus leur dit, En fait, vous n'êtes pas aveugle, vous voyez très bien, c'est pour ça que vos péchés subsistent. C'est exactement ce que dit Jacques par rapport aux actions. Cet homme-là sait ce qu'il doit faire, mais il ne le fait pas. C'est la raison pour laquelle son péché subsiste. C'est celui qui a connaissance, c'est celui qui croit que la connaissance va le sauver. Nous ne sommes pas sauvés par notre connaissance, nous sommes sauvés par ce que nous en faisons. Et Dieu est intéressé de savoir ce que nous allons faire avec ce que nous connaissons. Le meilleur argument en réalité en faveur du christianisme, c'est un chrétien conséquent. On nous pardonne nos fautes, on peut faire beaucoup d'erreurs, elles nous seront pardonnées, mais on nous pardonne difficilement d'être inconséquent. D'ailleurs, si vous vous en souvenez, pour ceux qui sont parents, c'est exactement ce que les enfants reprochent à leurs parents. Ce ne sont pas leurs erreurs, ce ne sont pas leurs fautes, c'est leur inconséquence. Inconséquent. Il sait bien faire, mais ne le fait pas. Il y a un septième personnage dans l'épître de Jacques. En réalité, il est présenté au début de l'épître. Nous sommes passés aux autres et nous voulons garder celui-là pour la fin. Il est présenté tout au début, au chapitre 1er, au verset 4. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le septième, évidemment, c'est l'homme parfait. Parfait parce qu'il a en lui l'accomplissement de la patience. La patience dont il est question dans ce texte, le mot qui est employé ici, c'est le même qui est employé dans un texte que vous connaissez bien, qui se trouve dans Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 12, où le texte que nous avons traduit par « persévérance ». C'est ici la persévérance des saints. C'est le même mot, la patience. Et vous avez remarqué, par association avec ce texte d'Apocalypse, que cette persévérance des saints est attachée à deux choses, à l'obéissance au commandement et à la foi de Jésus. Cette patience qui produit finalement des hommes et des femmes parfaits. Parfaits dans le sens de accompli. Et le mot qui est employé ici pour parfait a le sens de celui qui a atteint une complète maturité. Une maturité parfaite, celui qui est entier dans son développement. C'est le même personnage dont Jacques va parler un petit peu plus loin, au verset 12, où il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » C'est celui qui a été éprouvé et qui a traversé l'épreuve avec la persévérance, avec la patience, qui fait de lui un homme pleinement mûr en Jésus-Christ. Jacques en parle encore aussi un peu plus loin dans le chapitre 5, en prenant l'exemple des prophètes et l'exemple de Job. Jacques, chapitre 5, verset 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Le livre de Job nous rappelle cette lutte de Job, cette patience, cette persévérance, cette endurance de Job à mettre sa confiance en Dieu, même s'il ne comprend pas. Traverser la difficulté. Cet homme parfait, cet homme parfaitement mûr dans son caractère et dans sa vie chrétienne, c'est celui qui a mis en pratique ce que Jacques propose au chapitre 4, lorsqu'il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » C'est celui qui, en réalité, attend patiemment que le diable comprenne que finalement il peut faire tout ce qu'il veut, il ne cédera pas à la tentation. Le diable peut lui donner le tapis rouge, ou le diable peut lui donner les pires malheurs, ça ne changera rien pour lui. Celui qui est patient, c'est celui-là qui attend avec patience que le diable se fatigue pour rien de mettre devant lui des difficultés alors que de toute façon il a résolu qu'il serait fidèle jusqu'au bout. Il faut parfois être patient, parce que le diable a aussi une certaine persévérance. Mais un jour, il comprend que ça ne sert à rien, et que plus il en met sur notre chemin, plus il rencontrera d'échecs. Patience, la persévérance des saints, celui qui n'a pas peur de dire de toute façon, il y a une promesse à laquelle je m'accroche. Celui qui est conscient que cette promesse est pour lui. Cette promesse, vous la connaissez, l'apôtre Paul la rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 10. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Ce texte est un miroir qui nous fait voir notre visage parce qu'en réalité, nous comprenons que toutes les fois où nous sommes tombés, nous avions les moyens de résister. Le Seigneur nous les avait donnés. Il avait mesuré la difficulté pour que nous ne tombions pas. En regardant dans ce miroir, nous comprenons à quel point nous avons besoin d'être transformés, d'être changés à l'image de ce personnage parfait, à l'image de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul nous propose d'ailleurs dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, vous connaissez ce passage où un objectif très élevé nous est proposé, mais c'est l'objectif de la parole de Dieu qui voudrait non seulement que nous soyons pardonnés, mais il voudrait que nous soyons aussi transformés. Épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 4, au verset 12, après avoir parlé des différents dons qui nous sont donnés, Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 12, Paul dit ceci, « Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Voilà un objectif élevé. Le texte dit « à l'état d'homme fait ». C'est ici le même mot qui est employé dans l'épître de Jacques pour « parfait ». Ayant atteint cette maturité complète du caractère à la ressemblance de celui de Jésus. Sept personnages présentés dans l'épître de Jacques comme des personnages, en tout cas les six premiers, qui ont besoin d'être transformés, d'avancer encore, de se regarder dans le miroir et d'aller voir le Créateur pour qu'il fasse un ajustement, non pas superficiel par un peu de maquillage, mais une transformation profonde, pour que dans ce miroir, le visage de Jésus apparaisse. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a encore du travail à faire pour que, en nous regardant dans le miroir, nous puissions voir ce visage? Auquel de ces personnages ressemblons-nous le plus? L'objectif nous est donné, par la grâce de Dieu, de reproduire ce caractère parfait du Christ, d'être ces hommes et ces femmes faits, pleinement mûrs en Jésus-Christ. Et nous avons une promesse que j'aimerais vous laisser en terminant et qui est sous la plume de l'apôtre Pierre. Dans ce texte que vous connaissez, dans la première épître de Pierre au chapitre 5, première épître de Pierre au chapitre 5, cette promesse est inscrite au verset 10 où il est dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. »